Vous aurez besoin de vos Bibles aujourd'hui parce que nous allons faire un parcours assez important de la Bible et spécialement la Bible hébraïque, les histoires que nous avons concernant Israël dans l'Ancien Testament. Ceux qui étaient là pour l'étude ou la lecture commentée que nous avons fait avant, nous avons lu ensemble une partie de 1 Corinthiens chapitre 9 et chapitre 10 qui parlait du peuple d'Israël dans le désert. Et on reprend ce passage pour comme mise en garde que nous devons marcher jusqu'au bout pour gagner le prix, pour finir la course comme il faut. Il faut pas qu'on mette en danger notre salut. C'est l'idée de se discipliner, d'aller en avant pour arriver jusqu'au bout. Et c'est vrai que si on connaît l'Ancien Testament, on comprend beaucoup mieux ce que les chrétiens ont compris dans les lettres qu'ils ont reçues. De la même façon, il faut savoir que la Bible de Jésus, c'était Genèse à Malachie. C'est ce livre-là qui l'a instruit, qui soufflé bien sûr par l'Esprit de Dieu. Il a pu comprendre ces différentes choses, mais dans un sens, l'évangile de Jésus, c'était l'Ancien Testament que nous avons, et de cela, il a puisé beaucoup de ses enseignements. Et le plus que nous lisons l'Ancien Testament, le mieux nous pouvons comprendre le contexte du Nouveau Testament. Parce que, par exemple, Jean chapitre 10, où Jésus dit « Je suis le bon berger », bon, chaque juif aurait pensé à Dieu qui est le berger de son peuple, lui qui, comme le psaume 23 le dit, guide son peuple, mais on aurait pensé à Ésaïe et à d'autres. Les paraboles que Jésus a racontées, certains de ces paraboles ont leur histoire, leur fondement dans l'Ancien Testament, si ce soit des vignes qui sont plantées ou si d'autres thèmes de fêtes ensemble, etc. Donc, je vais vous inviter à regarder aujourd'hui dans un contexte et dans un texte, et j'aurai besoin de votre aide, l'aide de tout le monde. Nous serons au Hébreux chapitre 11, les versets 32 à 40. Et si vous commencez à nager un peu, c'est pas grave. C'est quand vous commencez à vous noyer un peu, c'est là où il faut crier au secours pour qu'on comprenne un peu mieux ce qui se passe. Hébreux chapitre 11, les versets 32 à 40. Et ici, nous finissons donc toute cette partie de la foi, cette foi qui est montrée à travers les héros de l'Ancien Testament, comme nous avons vu Abel, comme Abraham, Isaac, Jacob, et la liste continue. Le passage que nous avons aujourd'hui, c'est un passage qui va parler de beaucoup de gens, donc c'est un type de mitrailleuse qui est là, on va tirer beaucoup de fois avec l'idée qu'on touche quand même quelqu'un avec un exemple qui est donné. Et en lisant cela, peut-être vous pouvez garder à l'esprit deux choses. Okay? Première chose, c'est que ces personnes, quand vous lisez leurs histoires dans l'Ancien Testament, leur foi n'est pas toujours évidente. Okay? C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont leur péché, mais qui ont aussi des moments de resplendissant de foi. Okay? Donc, ce ne sont pas des personnes qui sont sans péché que nous lisons, et même leurs péchés sont souvent décrits en détail dans l'Ancien Testament. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose que nous avons dans cette liste, ce ne sont pas des gens qui étaient tous, qui ont vécu des happy ends à leur histoire. C'est-à-dire, il y en a qui ne verront pas de victoire. Ils vont mourir dans la foi, okay, dans l'espérance, mais sans avoir eu la victoire, qui est difficile pour nous parce qu'on aime les histoires qui finissent bien. On aime que quelqu'un donne un témoignage. J'étais dans cette situation, j'ai prié Dieu et il m'a délivré. Que faire avec les autres situations où j'étais dans un problème, une situation, j'ai prié Dieu et il m'a pas délivré, je suis mort. Bon, on peut pas dire cela, mais c'est exactement ce qui s'est passé dans certains de ces textes. Donc voilà ce que nous avons dans Hébreux chapitre 11, les versets 32 et 40. Bon, ça vaut la peine de lire, ok? Et que dirais-je encore, verset 32? Que le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui, par la foi, vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance des feux, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après avoir été malades, furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes retrouvèrent le mort par la résurrection. D'autres furent torturées et n'acceptèrent pas de délivrance afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet, bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénudés de tout, opprimés, maltraités. Eux dans le monde n'étaient pas dignes. Errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. À la perfection. D'accord. Bon, juste deux ou trois choses que je peux souligner. Le verset 38, il dit « Eux dans le monde n'étaient pas dignes. » Il était trop bon pour ce monde. Le monde n'a pas apprécié ces personnes. Même, sans doute, ils ont dit que le bien qu'ils faisaient, c'était du mal et ils ont voulu les détruire. Et la deuxième chose que nous avons ici, c'est le petit passage qui dit au verset 39 « Ils n'ont pas obtenu ce que leur avait été promis. » Ils sont fidèles jusqu'au bout, mais ils n'ont pas reçu. Ils sont morts dans l'espérance de cela. Et cela est important. Donc, regardons certaines de ces personnes, et puis vous pouvez m'aider si vous avez besoin aussi de prendre des notes, vous pouvez. Le premier qui note dans notre liste, c'est notre cher Gédéon. Si vous voulez retrouver la plupart de ces gens dans la première liste, alors c'est dans les juges que vous pouvez les trouver. Ça, c'est Juges chapitre 6 au chapitre 8. Et vous savez qui est Gédéon? C'est lui qui allait dans les hôtels et qui posait des livres, des Bibles à côté des... Non, c'est pas ça, même si vous connaissez les Gédéons de cette manière. Non, Gédéon, c'était un homme avec très peu de foi, qui a dû être rassuré en tout cas trois fois, recevoir trois signes avant que lui, il mène en guerre 300 hommes qui ont battu les Madianites. Et avec sa petite foi, vraiment avec sa petite foi, Dieu a donné une victoire à Israël contre des ennemis archi-puissants. Il y a après lui un Barak. Vous lisez son histoire dans Juges, chapitre 4 et 5. Et Barak était appelé par la prophétesse Déborah d'aller contre les ennemis et guider. Et puis Barak, un homme de courage, qu'a-t-il fait? Il dit, j'irai seulement si toi, tu viens avec moi. Et donc Déborah prophétise et dit, Dieu donnera la victoire à une femme qui s'appelait Sisera, Jaël qui a tué Sisera. Et donc, à la fin de cette histoire, c'est une femme qui a la victoire et c'est Déborah qui chante un louange à Dieu pour la victoire qui était donnée. Et donc, Barak, avec très peu de foi, au lieu de simplement obéir, il dit « J'irai, mais si tu viens avec moi. » Et puis, le message, c'est que « Ok, si je viens avec toi, c'est une femme qui aura la gloire. » Et c'est le cas pour Jaël. Samson. Vous vous souvenez de lui parce que vous avez vu les films sans doute. Okay. Il se trouve dans chapitre 13 à 16. Okay. Et on se souvient de lui par sa force, n'est-ce pas? Un homme puissant. Mais on se souvient de lui aussi par son infidélité, son immoralité et le fait qu'il était attiré par des femmes qui ne respectaient pas Dieu. Et c'était ça, sa chute. mais il est devenu donc quelqu'un qui a pu livrer ou délivrer le peuple d'Israël de ses ennemis, les Philistins. Et vous pouvez lire son histoire dans Juges chapitre 13 au verset 16, qui, moi je dois dire, qui finit très mal, hein. C'est une histoire qui aveugle, enchaîné et mourant avec ses ennemis. C'est comme cela que ça termine. J'ai un peu peur de vous parler du prochain qui s'appelle Jephté. Juste pour bien écrire son mot. Okay. Jephté se trouve dans Juges chapitre 11 et 12, et il faut avoir beaucoup de foi de lire son histoire. C'est un homme qui dirigeait une bande de voleurs, et le peuple d'Israël, ou les chefs d'Israël, font appel à lui pour que lui, il les délivre de leurs ennemis. Et donc, il va diriger le peuple contre les Ammonites. Et je ne parlerai pas du mal qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il va même faire un sacrifice humain de sa fille vierge pour gagner la victoire. Il y a David. Alors oui, bon, David, on tombe sur lui. L'auteur aux Hébreux dit, le temps nous manquerait de parler de David. Donc on ne va pas passer beaucoup de temps de parler de lui. Mais vous vous souvenez, il a agi comme le berger du peuple, comme nous avons lu dans notre texte. Oups. Il a respecté le roi Saül et toute sa famille, ou plutôt que de prendre le pouvoir tout seul. Il a unifié le royaume, il a vaincu les ennemis d'Israël. Il a pris la ville de Jérusalem et a voulu construire le temple là. Il a écrit des prières et des chants qui nous touchent jusqu'à aujourd'hui, et des prières et des chants que Jésus lui-même a priés, même depuis la croix. Et donc, nous voyons ses victoires, nous voyons sa foi, mais nous voyons aussi sa faiblesse. Mais notons bien que Jésus est connu comme le fils de David, celui qui devait prendre son trône. Après, il mentionne donc David, après nous avons Samuel. Est-ce que vous avez une idée de où on retrouve le juge Samuel, dans quel livre de la Bible? Oui, c'est très bien, 1 et 2 Samuel, donc c'est très bien. Si j'avais dit la même chose pour Gédéon, il n'y a pas un livre de Gédéon, évidemment. Mais Samuel, c'est le dernier juge, et nous nous souvenons de lui parce qu'il est juge et prophète. Il est celui qui est venu avant David, et c'est lui qui va oindre Saül, le premier roi, et qui va après oindre le deuxième roi qui est David. C'est vraiment le premier des prophètes de cette époque. Et il est un homme dédié à Dieu depuis sa naissance. Le moment qu'il est né, sa maman, ou même avant, l'a promis de le donner à Dieu. Et donc, il va passer sa vie au tabernacle. Et à un jeune âge, très jeune âge, il reçoit un message de Dieu et il devient donc le porte-parole de Dieu. Et donc, c'est un homme de foi. Un homme de foi. Mais quand nous lisons son histoire, nous nous souvenons que ses fils étaient infidèles. Il n'a pas pu passer sa foi à ses fils. Donc, malgré toute sa force, il y avait quand même des choses qui sans doute n'allaient pas dans sa manière de faire. Mais Dieu regarde Samuel et qu'est-ce qu'on voit? On voit sa foi. Il est un exemple de foi. Puis après, il y a des actions héroïques de la foi. Vous avez vu au verset 33, okay, ils disent qu'ils vainquirent des royaumes. Okay, ça c'est bien, verset 33, pardon. Ils vainquirent des royaumes. Et comme mentionné, c'est ce qu'ont fait les juges d'Israël, parce que les juges étaient vraiment des guerriers, des généraux d'Israël. C'est ce qu'ont fait les juges, c'est ce qui a fait Saül, c'est ce qui a fait Josué, qui est dans notre texte, et aussi ce qui a fait David. Il a dit, ils ont exercé la justice, okay? Verset 33. C'est-à-dire, ils sont venus, ils ont mis les choses droites, ils ont jugé entre ce qui était bon et ce qui était le mal. Ils ont pu faire comme ça. Samuel a fait cela. Les rois d'Israël, ils ont jugé, comme vous vous souvenez de Salomon qui a fait cela. Il dit par la suite au verset 33, ils obtinrent des promesses, comme Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, ou même Rahab, que Justin a prêché. Rahab a reçu les promesses parce que par la foi, elle s'est greffée au peuple de Dieu. Au verset 33, ils fermèrent la gueule des lions. Ça vous fait penser à qui? À Daniel, n'est-ce pas? Cette histoire magnifique où il résiste au roi et il fait ce qui est nécessaire et on le trouve encore vivant le matin. On pense aussi à Samson, parce que Samson a tué un lion avec ses propres mains. Et il faut pas penser qu'il est allé chercher le lion, il semble qu'il était attaqué par le lion. Ils éteignirent la puissance du feu. Le verset 34. Ça nous fait penser à qui? Aussi aux amis de Daniel, n'est-ce pas? On pense à Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue imposante construite par Nebuchadnezzar. Et jetés dans une fournaise ardente, ils ont été sauvés par Dieu. Il y a un autre qui est apparu comme un fils de Dieu. Et leur foi ne dépendait pas de leur délivrance, vous vous souvenez. Ils sont restés fidèles. Ils ont dit, même si Dieu ne nous sauve pas, nous resterons fidèles. Il dit au verset 34, ils échappèrent au tranchant de l'épée. Et là, on pense à David. Bien sûr, avec son fils, avec Saül, avec d'autres. Et nous pensons à Élisée aussi, qui était sauvé de la tranchant de l'épée. Mais moi, je pense aussi au Nouveau Testament. Je pense à Pierre, délivré de la prison au milieu de la nuit, quand Hérode voulait le mettre à mort après le martyre de Jacques. Il dit au 34, reprirent des forces après avoir été malades. Reprirent des forces après avoir été malades. Ça nous fait penser à Ézéchias, okay? Le roi qui a appris qu'il allait mourir. Le prophète vient, mets en ordre ta vie parce que tu vas mourir. Et lui, il va sur son lit, il tourne vers le mur et il prie à Dieu. J'étais fidèle, j'ai essayé de te suivre. Et puis le message vient au prophète de donner encore des années de vie à Ézéchias. Nous voyons au verset 34, ils furent vaillants à la guerre et mirent en fuite des armées étrangères. Là, on pense bien sûr à Josué, aux juges, ou même David devant Goliath et les armées des Philistins. Et le verset 35, des femmes retrouvèrent le mort par la résurrection. Et il y a deux femmes dans les histoires d'Élie et d'Élisée qui ont reçu leurs enfants ressusciter des prophètes. Et ça nous fait penser, n'est-ce pas, à Jésus, quand il est venu et quand il a vu ses veuves qui avaient perdu les enfants ou la fille qui était malade et morte, qu'il les a ressuscités. Mais j'aimerais que vous voyiez la suite, s'il vous plaît, au verset 35. Il dit, torturés, ils n'acceptèrent pas de délivrance. Le mot pour torturer ici, c'est un mot qui est tambouriné. C'est l'idée d'attacher des victimes sur une roue et puis de les battre. On a le mot bastonnade qui donne aussi cette expression. Et ces personnes ici, c'est des descriptions de souffrances qui ne sont pas nécessairement trouvables dans les textes de l'Ancien Testament. Il semble qu'on fait des références aux Juifs qui sont restés fidèles pendant la persécution des Grecs 2 siècles avant Jésus-Christ. Donc, vous vous souvenez que le roi de Syrie, Antiochus, il avait pris Jérusalem et il a essayé d'imposer une hellénisation sur le peuple. Et cela voulait dire aussi des adorations des idoles. Et des gens ont résisté. Par exemple, les Maccabées et les cinq fils qui ont fait une campagne guérilla contre les forces occupantes. Et ici, il semble que nous avons des gens qui sont rési ont résisté, qui font partie de l'histoire des Juifs. Donc le verset 36. Ils éprouvèrent des moqueries et le fouet, et les chaînes et la prison. Bon, on pense aussi à l'Ancien Testament comme Joseph, qui a été mis en prison et enchaîné sous fausse accusation. Les chrétiens du premier siècle comprenaient ce qui c'était d'être méprisés et enchaînés à cause de leur foi. Ils savaient ce que c'était. Est-ce que vous êtes prêt à aller en prison pour votre foi? Est-ce que vous êtes, disons, la seule chose qu'il faudrait dire, c'est que Jésus n'est pas Seigneur. C'est la seule chose qu'il fallait faire. Et puis, si tu dis non, je peux pas le dire, Jésus est le Seigneur, il t'amenait, il te prenait en dehors de la maison, il t'enchaînait, il te mettait en prison, etc. Les gens, les Hébreux ici qui ont reçu cette lettre, ils n'étaient pas mis en prison. Vous savez ce qu'ils faisaient? Ils vidaient leur maison. OK. Vous voulez pas renoncer à Jésus? D'accord. Ils ont pris leur bien. Ils ont vidé leur maison. Peut-être qu'ils sont devenus des sans-abri. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela pour le Seigneur? Bon, ces gens, ils étaient prêts à le faire. Le verset 37. Lapidé, mis à l'épreuve, scié, il fut tué par l'épée. La tradition juive nous dit que Jérémie, le prophète, n'a pas seulement été pris par son propre peuple et kidnappé et amené en Égypte, mais quand il était là-bas, que son propre peuple l'a lapidé. Jérémie, le prophète, qui avait vécu la chute de Jérusalem. Et nous savons qu'Étienne, le premier martyr chrétien, qu'est-ce qui s'est passé? Lapidé à Jérusalem, parce qu'il a prêché Jésus-Christ et a parlé de ce qu'il faisait. Pour scier en deux, nous n'avons que de la tradition juive qui nous dit que Ésaïe est mort de cette façon, tué par le roi Manassé, un roi méchant qui s'est repenti juste à la fin de sa vie. Et toutes sortes de légendes se sont développées autour de cette histoire, mais sans doute l'auteur pense à cela. Le verset 37, il a l'air çà et là, vêtu de peau de brebis, de peau de chèvre, dénué de tout, opprimé et maltraité. Et là, on commence à toucher les chrétiens du premier siècle, que sans doute persécutés, beaucoup qui avaient perdu leur bien et leur maison, ils devaient errer à gauche, à droite, n'ayant plus un chez soi. C'est une vie de fuite et de refuge. Nous pensons à des gens comme Jean-Baptiste qui l'ont choisi, mais nous pensons aussi à d'autres chrétiens qui ont choisi le Christ et à cause de cela, ils ont perdu ce qu'ils avaient. Le verset 37, errant dans le désert, les montagnes, les cavernes et les entes de la terre. Ils ont dû se cacher sur les collines de la Judée ou dans les lieux déserts, car les autorités les cherchaient à mettre à mort. Le verset 38, eux dont le monde n'était pas digne. L'auteur ne peut plus contenir son émotion. Le monde n'était pas digne de ces femmes, n'était pas digne de ces hommes de foi. Pour des raisons politiques, la recherche de pouvoir, l'amour de l'influence, parce que les œuvres étaient mauvaises, les hommes méchants ont méprisé ces personnes de foi. Ils les ont persécutés même jusqu'à la mort. Les fidèles de Dieu, quel mal avaient-ils fait? Quel était leur crime? Ils étaient des innocents. Ils étaient fidèles à Dieu. Mais la réalité est ceci, écoutez bien, le monde déteste la lumière. Les ténèbres ne veulent pas que les gens vivent dans la lumière. Et donc le monde va appeler les ténèbres lumière et va nommer la lumière les ténèbres. Et quand cela se passe, donc ce qui se passe, c'est qu'il y a la persécution. Le monde n'était pas digne de telles personnes si fidèles. Et c'est souligné encore une fois, vous ne pouvez pas vivre pour le Christ et attendre à recevoir l'acclamation de ceux qui ne vivent pas pour lui. Vous ne pouvez pas vivre pour lui et attendre que tout le monde dise, ah ouais, vous êtes super. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une pensée rationnelle. Sans doute, il y a des choses qui vont apprécier. Mais si vous tenez trop fort à ces choses que vous croyez, à un moment donné, vous serez haï. Le verset 39. Et tous ceux-là qui avaient reçu parfois un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Notons bien, il parle verset 35, il parlait d'une résurrection meilleure. Il y en a qui attendaient cela. Au verset 39, mais ils n'ont pas obtenu ce que leur avait été promis. Et il dit, la raison pour cela, il dit, c'est parce qu'il y a des choses que nous devions, les chrétiens, recevoir pour qu'on participe tous à cette perfection. La perfection ici, c'est l'accomplissement des prophéties données en Jésus, le meilleur, donc, est réalisé. Et toutes ces grandes femmes et tous ces grands hommes que nous avons étudiés, ce qu'ils avaient attendu, c'est ce que nous avons vu, c'est-à-dire le salut pour tous qui ont la foi et l'obéissance à Jésus. C'est cela que nous avons. Je veux citer juste un petit passage de Charles White. L'auteur semble dire ici à ses lecteurs, « Regardez la foi de ces personnes qui ont tout donné pour une promesse dont ils n'ont même pas vu l'accomplissement. Alors que vous, qui avez goûté le don céleste et les puissances du siècle à venir, qui avez eu part à la nouvelle alliance par le sang même du Fils de Dieu, vous osez penser à renoncer. Mais c'est pour que vous entriez ensemble dans la pleine bénédiction de Dieu que l'accomplissement de ne leur a pas été accordé. Leur bénédiction dépend donc en quelque sorte de vous. Ne renoncez pas, surtout ici, surtout maintenant. » Quand j'ai fait mes études de théologie, et ça fait un très très long moment, ça devient de plus en plus loin dans le temps, ce qu'on était obligé de faire pour terminé avec notre licence, c'était de suivre un cours d'histoire de l'Église. C'était l'histoire de l'Église de l'année 100 à 60 avec le professeur Lemoyne Lewis. Alors, il faut savoir que Lemoyne Lewis, il est allé à Harvard, ok, et il a fini première de sa classe à Harvard. Sa manière de faire un cours, c'était ex cathedra. Okay. C'est-à-dire, il avait ses notes, et puis il les enseignait. Et je dois vous dire, c'était rempli de dates, c'était rempli de noms, c'était rempli de lieux, et il fallait essayer de se souvenir de toutes ces choses parce que les examens, c'était 100 phrases, et il fallait trouver la bonne réponse avec la bonne date, avec la bonne personne, etc. Ce n'était pas très, très évident de faire. Même si on trichait, c'était très difficile à faire. Mais tous les étudiants qui avait suivi ce cours, disait ceci. Il y a un jour, il ne faut pas manquer. C'est le jour où Lemoyne Lewis parle des martyrs. Il ne faut pas louper ce jour-là. Et ils disent que c'est un moment que tu peux oublier. Alors, notons bien, c'est un cours qui durait 1h20. Et c'est Lemoyne Lewis qui parlait du début jusqu'à la fin. Mais c'est vrai quand le jour est arrivé, quand il donnait le cours sur les martyrs, donc la salle était remplie. Des anciens étudiants venaient pour écouter le Moine Lewis parler de ces chrétiens. Il racontait ce que les premiers chrétiens ont souffert parce qu'ils ont refusé de nier le Christ. Et ce qui s'est passé, c'est que pendant cette classe, le Moine Lewis était transporté presque, je veux dire littéralement, mais c'est pas vrai, mais il était transporté à ce moment et il vivait devant nous cette tristesse et la souffrance de ces personnes qui sont mortes. Et je me souviens, en regardant mes notes, il y avait Jacques à Jérusalem, décapité, et commençait avec lui. Et Pierre crucifié, Paul décapité à Rome, l'évêque Siméon de Jérusalem crucifié, un certain Nicodème tué à Rome, Timothée battu par la foule à Éphèse et il mourut 2 jours plus tard, Ignace d'Antioche fut jeté aux bêtes sauvages, Eustache, commandant des troupes romaines, a refusé de fêter les dieux païens et l'empereur Adrien l'a fait tuer, lui et toute sa famille. Quand Fausto et Jovita furent tués à Brescia, leurs tourments étaient si nombreux et leur patience si grande que l'un des païens présents, qui s'appelait Calosérius, a exclamé « Grand est le Dieu des chrétiens !» Et lui, il a été arrêté et a subi le même sort que les chrétiens. Il y avait Blandine à Lyon, mise en prison, torturée. Ses bourreaux se sont épuisés et ne savaient pas ce qu'elle mal on pouvait encore lui faire. À chaque demande qu'elle répudie sa foi, elle a répété « Je suis chrétienne et nous ne faisons aucun mal. » Encore torturée, car elle n'était pas romaine, juste une simple esclave, cette fois-ci, elle fut suppliciée et en public dans l'amphithéâtre à Lyon pendant les Jeux. Liée au poteau, on l'a relâchée des bêtes sauvages, mais elles ne l'ont pas touchée. Quelques jours plus tard, de nouveau dans l'arène, elle était témoin des martyrs, de ses compagnons, de ses frères et sœurs de l'Église. Puis on l'a flagellée, l'a placée sur un grill brûlant, enveloppée dans un filet, l'a jetée devant un taureau sauvage qui l'a percée d'une corne. Et on l'a achevée par le glaive. L'écrivain dit, le monde n'était pas digne d'eux. Et ces martyrs étaient fidèles parce qu'ils avaient goûté ce qu'Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab n'avaient pas goûté. Et les chrétiens de notre texte ont goûté ce les chrétiens de notre texte ont goûté ce qu'Abel, Abraham, Noé, Abraham et les autres n'ont pas goûté. Et vous qui êtes en Christ, vous avez goûté la vie éternelle et vous avez reçu la promesse. Et donc, l'appel que nous avons ici est assez simple. Quand nous restons fidèles à Dieu, au Christ, à travers toutes les situations qui sont là, et nous ne savons pas ce que ce monde va nous amener. Nous ne savons pas quel est notre avenir. Nous préparons cela par la prière, nous préparons cela en préparant nos âmes, nous préparons cela physiquement aussi, mais nous n'avons aucune garantie de ce que l'avenir nous amène. Mais l'appel est là de rester fidèle jusqu'au bout. Et en faisant cela, nous sommes en train de vivre à la perfection ce qui était promis aux autres qui n'ont pas vu ce que nous avons vu. Nous savons que Christ est mort pour nous. Nous savons qu'il est ressuscité. Nous savons que nous avons les promesses de la vie éternelle. Ces choses ont été réalisées. Et à cause de cela, grâce à cela, nous continuons à rester fidèles jusqu'au bout.